Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'oraison, cette prière silencieuse et personnelle, sorte de méditation chrétienne peu connue des croyants pratiquants eux-mêmes. Au cœur de cette prière, il y aurait un secret, une présence autre que celle du Christ ressuscité, qui peu à peu, nous disent les maîtres spirituels, se laisse révéler à celui qui persévère envers et contre tout dans cette forme de prière. Une présence plus douce, plus humaine, une maîtresse de vie intérieure. L'école de la prière, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, notre grande série annuelle en partenariat avec les frères Carmes de Toulouse. Et ce matin, je reçois le frère Philippe de Jésus-Marie, frère Carmes à Toulouse, ça tombe bien, bonjour.
Bonjour.
Cette émission, je ne me souviens même plus de la combientième c'est dire, il doit dû y en avoir, comme c'est une par mois, on doit être à
7-8.
Voilà, exactement, 7-8. Il nous en reste deux, en mai et en juin, et cela tombe bien en ce mois de mai, puisque c'est traditionnellement un des deux mois dans l'année qui est réservé plus particulièrement à la dévotion de la Vierge Marie. Le thème de l'émission, enfin le sous-titre on va dire de l'émission de ce jour est la place de la Vierge Marie dans cette prière d'oraison. On le fait quasiment à chaque fois parce que je me dis que évidemment tout le monde n'écoute pas toutes les émissions de cette série, même si elles sont disponibles en podcast dans un beau dossier pour ceux qui voudraient les écouter, on va dire au fur et à mesure ou revenir dessus. L'oraison, c'est une forme de prière parmi d'autres. Qu'est-ce que vous rediriez peut-être en chapeau de cette émission pour présenter cette voie pour aller en haut de l'Everest de la vie spirituelle?
Alors le chapeau qui s'impose pour tout Carme, c'est la définition de Sainte Thérèse d'Avila, de Jésus, que vous avez dû entendre 5 ou 6 fois au moins. Hein, l'oraison comme entretien d'amitié avec ce Dieu dont nous savons qu'il nous aime. Hein, on s'entretient souvent seul à seul avec lui. Donc prière personnelle, silencieuse, prière d'intimité, je dirais brièvement.
Renvoie aux autres émissions pour le reste. Alors on s'est dit donc aujourd'hui qu'on allait parler de la Vierge Marie et peut-être avec 3 aspects. Pardon pour ceux qui trouveront ça peut-être un peu scolaire, mais c'est l'habitude de cette émission. On va dire la Vierge Marie comme l'oraison comme une école mariale. Ensuite, revenir un petit peu sur ce qu'est la dévotion à la Vierge Marie. Ça peut paraître une tarte à la crème pour certains ou bien étrange pour d'autres. Et puis, quelques formes de consécration à la Vierge Marie, entre autres le scapulaire qui est propre aussi un peu à la famille carmélitaine. Si on commence par l'oraison, une école mariale, on a l'habitude de dire que Marie est une femme de silence. Voilà, j'avais souvenir pendant l'émission de ce livre du cardinal Sarah, je crois que c'est La force du silence, qui a eu beaucoup de succès ces dernières années. Marie comme femme de silence, évidemment, comment ne pas penser à cette phrase de l'évangile, et elle médita tout cela dans son cœur, à l'occasion de l'Annonciation. Comment vous introduiriez ce premier point?
Bien, je crois justement que, si, comme je l'ai rappelé à l'instant, l'oraison, cette prière que nous vivons dans le silence, en nous plongeant dans la présence du Seigneur pour nous laisser petit à petit transformer par lui, Marie nous apparaît d'emblée comme le modèle absolu. Hein, je crois qu'on peut se resituer justement devant le mystère de l'Annonciation. Marie, comme la représentent les artistes, hein, on la voit dans sa chambre, seule, qui médite. Souvent, elle a un livre, je pense à des représentations de Fra Angelico, on la voit qui a le livre des Écritures, peut-être, et Marie qui médite le plan de Dieu, médite l'amour de Dieu, et qui est dans cette forme de silence qui va lui permettre d'accueillir l'annonce de l'ange. Et là, on a comme vraiment une mise en image, une mise en scène de ce qu'est le temps d'oraison que nous sommes appelés à vivre chaque jour. C'est un peu comme rentrer, selon la parole du Seigneur dans Matthieu 6, quand tu veux prier, ferme la porte derrière toi et va dans ta chambre et là prie ton Père qui est dans le secret. C'est vraiment le secret de Marie, c'est cela, hein, elle est dans sa chambre en silence et c'est là qu'elle va accueillir le message, la parole de Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les évangiles qui disent cette femme de silence? Déjà il y a peu de paroles en fait de...
Alors, je crois que ce qui montre le plus le silence de Marie, c'est son extrême discrétion dans les récits évangéliques. Notamment, Luc nous la montre dans les évangiles de l'enfance, mais après, toute la partie de la vie publique de Jésus, Marie est absente. Alors, on l'aperçoit chez Jean au départ.
À deux ou trois reprises quand même, oui.
Voilà, on la voit de temps en temps comme amenée par le clan familial hein, pour venir récupérer Jésus. Mais on voit bien que Marie a une autre forme de présence, hein, qu'une présence de premier plan. Elle hein, n'est pas au milieu des apôtres, même apparemment des saintes femmes. On voit qu'elle est vraiment en retrait, dans le silence, sans doute cachée encore à Nazareth. Et je crois que c'est sa forme typique hein, de présence. Elle est là, dans cette forme, voilà, cette forme de vie cachée qui est un peu au cœur de l'Église, qui ressemble un peu, si vous voulez, aujourd'hui dans l'Église à la forme de vie des carmélites, des moniales cloîtrées, qui sont très présentes sans être pour autant visibles et manifestées.
Elle n'était pas là, mais elle était là. C'est ça qu'il faut en déduire, à l'inverse peut-être de...
De parfois nous qui sommes là sans être là. Hein. Enfin, et je crois que ça nous introduit bien justement à ce que c'est que l'oraison, parce que l'oraison, c'est être là pour être là. Hein. C'est prendre un temps, 10, 20, 30 minutes, mais dans lesquelles nous devons apprendre à être présents à ce que nous vivons, à être présents au Seigneur. Et donc, c'est une école de présence. Et je crois que Marie est vraiment une très belle image de cela, puisqu'elle ne fait pas de bruit, elle ne multiplie pas les paroles. Quand elle parle, c'est très court, faites tout ce qu'il vous dira, voici la servante du Seigneur. Voilà, pourquoi nous as-tu, hein, où es-tu passé ? Enfin, c'est vraiment, vous voyez, des phrases très très brèves, mais parce qu'elle va droit au but, à l'essentiel, elle est toute tournée vers le Seigneur.
En tout cas, ça dit aussi le combat que peut être l'oraison et aussi, j'allais dire, presque l'acte de résistance que peut être cette forme de prière. On l'a vu tout au long de cette année et de cette grande série, à quel point le fait de se déterminer pour ce temps de solitude, ce temps de silence, ce temps de prière, c'était aussi travailler à faire de la place pour l'intériorité, pour le silence, etc. Autant de choses qui ne sont pas si faciles que ça à vivre et qui ne sont pas vraiment ce à quoi nous pousse le quotidien.
Et puis c'est fondamentalement un acte de foi. Hein, c'est penser que ça a du poids, du sens, de la valeur, justement de apparemment, je dis bien apparemment, rien faire. Hein.
Alors on s'est dit que aussi l'école, l'oraison comme une école mariale, comment évidemment ne pas penser, c'était le thème de la précédente émission, le Christ au cœur de l'oraison. Comment ne pas se dire que elle ayant été la mère de celui que l'on découvrirait, semble-t-il, au cœur de cette grande tradition spirituelle, comme un bourgeon qui naîtrait au cœur de ce silence, la présence de quelqu'un. On se dit que évidemment elle devait bien connaître ce quelqu'un et donc peut-être nous le faire connaître. Alors est-ce à dire que, enfin, comment vous introduiriez à ce mystère ? Parce que ça peut paraître très théorique. On se dit oui, mais elle le connaissait bien, mais bon, c'est, on va dire, c'était alors, il y a bien longtemps.
Alors je répondrai un peu spontanément. Alors, enfin, sans grande légitimité dans ce que je vais dire, parce que je suis un homme, mais je pense qu'elle connaît Jésus comme d'abord comme une mère qui a porté son enfant dans son sein. Et bon, là, on n'est pas dans les paroles. Hein, mais c'est vraiment une intimité, la plus grande forme d'intimité qui existe ici-bas, finalement. Hein, l'échange entre une mère et son enfant. Et cet enfant que Marie portait, c'était ni plus ni moins que le Dieu fait chair, hein, le Verbe, la parole de Dieu qui prend chair parmi nous. Donc je pense que déjà, hein, elle nous amène à Jésus par cette proximité unique. C'est vraiment de toutes les créatures qui existent, celle qui est la plus proche de Jésus. Même Jésus devait lui ressembler. Comme un fils peut ressembler à sa mère, c'est le même sang hein, qui circule de l'un à l'autre. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment une intimité extrêmement forte. Et puis les 30 années mystérieuses de vie cachée à Nazareth, d'intimité. Donc vous voyez, Marie n'a pas fait un cours de christologie hein, pour savoir qui est Jésus, la nature divine, la nature humaine. Elle l'a expérimenté dans sa chair et dans son quotidien. Et en cela, c'est aussi comme cela qu'elle est maîtresse d'oraison, je crois, parce qu'elle nous invite peut-être à descendre de la tête dans le cœur hein, pour faire cette expérience de Jésus dans une intimité toute simple, au quotidien, comme une mère qui regarde son enfant et qui se laisse regarder par son enfant. Il y a quelque chose de cela que nous sommes appelés à vivre. Le temps de l'oraison, ce n'est pas un temps de discours. Hein, de faire des grandes théories, des grands sermons, des grandes conférences. C'est vraiment un temps de présence simple, amoureuse. On aime bien au Carmel l'expression d'oraison de simple regard. Hein, comme une maman qui regarde son enfant dans son berceau, et il est là, elle est là, hein, comme disait le paysan du curé d'Ars, je la vise, il m'avise. C'est d'abord cela l'intimité de Marie avec Jésus. Hein, et en quoi elle est vraiment modèle de vie d'oraison, je crois, pour nous.
L'autre chose, c'est que on peut se dire que la finalité de l'oraison, c'est donc de, on va dire, de ressembler à Dieu, si j'ai bien compris.
Oui.
Et or, il est dans, enfin, dans la tradition de l'Église, Marie a une place un peu particulière. Voilà, Radio Présence, qui est pas très loin de Lourdes, c'est évidemment assez connu. Marie qui se présente à Bernadette, en tout cas pour ceux qui ont foi dans ses apparitions, comme l'Immaculée Conception. Que dire ? Est-ce que Marie est quelque part l'icône de ce que chacun est appelé à devenir ? Et si oui, en quoi est-ce le cas ? Ou comment l'expliquer ?
Bien, Marie, elle est vraiment la créature toute sauvée. Hein. Justement, le dogme de l'Immaculée Conception, cette foi que nous avons, que Marie a été sauvée au moment même de sa conception, nous montre une créature toute graciée. Hein. Elle est la comblée de grâce, la pleine de grâce. Et donc, elle est vraiment, d'emblée, elle nous montre le but. Alors nous sommes, on le sait trop bien, on n'est pas tout graciés, hein, il y a encore des zones en nous qui résistent, mais tout ce chemin justement d'oraison est un chemin de transformation qui doit petit à petit nous permettre d'entrer dans ce grand propos que nous rappelle Paul hein, dans l'hymne aux Éphésiens, d'être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour. Hein. Et en fait c'est se laisser purifier. Voilà. Elle est là toute pure d'emblée, hein, par privilège, pour être mère de Dieu, pour être toute disponible à sa mission de mère de Dieu. Nous sommes appelés à nous laisser petit à petit purifier. Élisabeth de la Trinité parlait de se laisser virginiser, hein, c'est retrouver la pureté du cœur, donc en prenant du temps, un peu comme, vous voyez, si je prends un verre rempli d'un liquide un peu bizarre, je le pose et le fait de le laisser poser, de ne pas l'agiter, va permettre à toutes les impuretés de descendre, hein, de se décanter et pour laisser passer la lumière à travers l'eau qui va se manifester. Et ce temps d'oraison, si vous voulez, c'est un peu être là pour laisser décanter en nous tout ce qui résiste, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait écran à la lumière de Dieu. Et en cela, cet idéal hein, de transparence, de pureté, je crois que oui, Marie est vraiment l'icône hein, de la créature qui est totalement transparente à Dieu. Moi, j'aimerais bien le thème transparence. Hein, c'est se laisser illuminer pour devenir transparent de Dieu.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve tout de suite après pour continuer donc cette émission l'école de la prière, plus particulièrement la place de la Vierge Marie dans l'école d'oraison, peut-être pour redire quelques mots de la dévotion mariale et puis comment au cœur même de l'oraison, pour ceux qui auraient suivi toute cette série et qui commenceraient à faire des pas dans la prière, comment inviter la Vierge Marie, qu'est-ce que ça veut dire, comment s'y prendre et comment travailler à vivre cela peut-être en sa présence.
Sauve du péché. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'école de la prière, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, grande émission, grande série, grande série annuelle dans cette émission Vivante Église, en partenariat avec les Carmes de Toulouse, grande école de prière pour essayer d'introduire à cette forme de prière particulière qui est la prière d'oraison, en espérant que ça a pu en accompagner certains. Le sous-titre de l'émission de ce jour, donc la Vierge Marie dans cette prière d'oraison, et nous sommes avec le frère Philippe de Jésus-Marie, frère Carme de Toulouse. On s'est dit que dans cette deuxième partie d'émission, il pouvait être bon de repréciser, de donner quelques clés, peut-être plus concrètes, de la manière dont on peut introduire la Vierge Marie au cœur de la prière d'oraison. Mais avant ça, vous teniez à repréciser ce qu'on appelle le culte marial. On a parfois quelques a priori quant à ce culte, les hommes de Dieu ont toujours une précision importante à apporter. Alors allez-y, quelle est cette précision ?
La précision, c'est d'abord une réponse à une objection. Une objection qui a pu parfois blesser même les relations entre chrétiens. C'est la place de Marie dans la vie chrétienne. Est-ce que Marie ne ferait pas écran par rapport à Jésus ? Notre sauveur, c'est le Christ. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Et est-ce que Marie... excusez-moi de le dire un peu brutalement, ne serait pas de trop, ou finalement un échelon inutile, en faisant écran à Jésus. Alors je crois que la réponse, elle est dans l'évangile, et j'aime bien revenir pour ma part à l'évangile de Cana, où on voit justement comment Marie est toute relative à Jésus, et comment au contraire c'est elle qui va nous conduire à Jésus, avec cette phrase clé qui dit à la fois tout son mystère et toute notre vocation, « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est l'écho de son propre fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce que nous demandons au cœur de la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Et je crois que Dieu a choisi de venir à nous, par le mystère de l'incarnation, par Marie. Et je crois qu'il aime à ce que nous allions à lui par le chemin qu'il a pris. Là aussi, peut-être pour reprendre une parole de Jésus que j'applique à ma manière ici, il faut pas séparer ce que Dieu a uni. Marie est le chemin que Dieu a pris pour se faire homme. Eh bien, je crois aussi que Marie peut être le chemin que nous avons à prendre pour nous laisser diviniser en Jésus.
Mais si les prêtres, les religieux, etc. font encore et encore cette précision, est-ce simplement pour ne pas blesser nos frères protestants, ou est-ce à dire qu'en fait, même chez les chrétiens, il y a parfois, ce n'est pas évident.
Alors, il peut y avoir, je dirais qu'il y a deux extrêmes quasiment. Il y a les personnes qui auraient du mal avec Marie pour des raisons, je crois qu'il peut exister des raisons d'ordre psychologique. Par exemple, j'ai eu dans mon enfance un rapport difficile avec ma mère. Donc prier la Vierge Marie comme ma mère, ça m'est difficile. J'ai une réticence. Il peut y avoir cette difficulté là. Vous voyez, donc c'est pas une difficulté là, théologique, c'est une difficulté psychologique. Et puis peut-être aussi, j'ai aimé préciser ces choses là au départ parce que parfois il peut aussi exister l'excès inverse. C'est sous prétexte que de Mariam nunquam satis, on ne parle jamais assez de Marie, comme disait Saint Bernard, il peut y avoir le danger d'oublier qu'elle est relative à Jésus, qu'elle nous conduit à Jésus, d'oublier qu'elle est d'abord la mère de Dieu, la mère de Jésus. Donc je crois que nous sommes à trouver ce point d'équilibre catholique, ce point d'équilibre chrétien, de voir la place de Marie dans l'ordre du salut, relative à Jésus, qui nous conduit à Jésus. Et je crois que elle le fait, elle. Si moi je prie Marie, elle me conduit à Jésus.
Pour ceux qui, justement, auraient du mal avec cette dévotion mariale, vous venez d'en parler un instant, est-ce que de cultiver ce lien spirituel pourrait aider presque à guérir, d'une relation humaine blessée
Je pense que ça peut être un chemin. Ça peut être un chemin, comme les personnes qui ont pu avoir du mal avec leur père, de faire ce chemin de découverte par Jésus du vrai visage du père, peut aider à une réconciliation. Alors évidemment qu'il sera un long chemin, c'est le chemin de toute une vie, pour retrouver le visage du Père. Pareillement, la Vierge Marie, eh bien, je crois qu'elle peut nous réconcilier, si c'est besoin, avec notre propre mère. Mais je me rappelle qu'au Carmel, nous avons dans la tradition de l'ordre aussi, l'habitude de regarder Marie comme notre sœur. Ça peut être aussi peut-être pour les personnes, vous voyez, qui auraient un peu de mal avec la maternité, hein, bon, pour des raisons multiples, eh bien d'approcher aussi Marie comme sœur dans le chemin de foi, dans le chemin de suite du Christ. Hein. Elle est aussi une sœur qu'on peut imiter, avec qui on peut marcher. Et je crois que ça peut être aussi une bonne manière de se laisser peut-être apprivoiser, de la redécouvrir, hein, pour ceux qui auraient du mal à la prier, à la regarder, hein, de la regarder aussi comme sœur, comme disciple, toute proche de nous.
Alors, si on essaie d'être un tout petit peu plus concret maintenant, maintenant que vous nous avez dit que l'oraison était comme une grande école mariale, et puis que vous avez fait ces précisions, on va dire, introductives, bien nécessaires certainement, au cœur de cette prière d'oraison, alors vous n'étiez pas présent à chaque émission, mais j'imagine que vous parlez entre frères et que vous avez l'habitude de donner des écoles d'oraison, donc vous savez que nous a été expliqué, on va dire, j'allais dire en long, en large et en travers, mais en tout cas, bien préciser ce qu'était la prière d'oraison, comment travailler à la vivre, comment comprendre la manière dont Dieu agit, etc. Comment on invite la Vierge Marie? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? On lit quoi? Les passages d'évangile où Marie parle? On prend son chapelet?
Je dirais, on est libre. On est libre de prendre le chemin qui nous convient le plus. Hein. Alors, effectivement, il pourrait y avoir une méditation, par exemple, d'un évangile marial, comme l'Annonciation, hein, qui est vraiment l'icône type, hein, du moment d'oraison, où on peut contempler Marie au pied de la croix, on peut contempler Marie au Cénacle qui attend l'Esprit Saint, hein, on va bientôt fêter la Pentecôte, Marie qui est au cœur de l'Église pour rappeler l'Esprit Saint. Donc il y a d'abord ce premier groupe. Il n'est pas interdit, hein, je crois que pendant l'oraison, de méditer une dizaine de chapelets. Alors évidemment, ce sont deux formes de prières différentes, hein, qu'il faut peut-être situer, mais le chapelet doit être, je crois, hein, je crois que nos frères dominicains ne me contrediraient pas, une prière contemplative. C'est une prière qui nous fait contempler les mystères de Jésus avec les yeux de Marie, et la récitation, hein, des Ave Maria, des Je vous salue Marie, qui sert un peu comme de toile de fond, de basse continue, me permet de me recueillir en calmant un peu mon imagination, tout ce que j'ai dans la tête. La répétition de la prière simple canalise, hein, mon attention, et donc c'est comme une introduction presque à l'oraison déjà. Et je crois que le chapelet peut vraiment être une école de recueillement, de contemplation du Christ qui peut être prolongée par l'oraison. Moi, si je peux faire un petit témoignage, je commence mon temps d'oraison du matin en méditant une dizaine de chapelets. Hein, donc je prends un mystère différent chaque jour. Voilà, je le récite doucement, et puis ça, quelque part, ça me sert de rampe de lancement. Hein, je me trouve ensuite face au mystère, et en plus, après, je reste devant ce mystère sans plus dire d'Ave Maria. Mais vous voyez, je crois que le chapelet peut être un moyen, hein, aussi de nous disposer à l'oraison, et peut être aussi un moyen pendant le temps d'oraison, quand on est assaillé par des tentations, ou la fatigue, de se raccrocher à la prière vocale, hein, ça peut être le Notre Père, ou aussi le Je vous salue Marie, ou une autre invocation.
Est-ce que ça peut être des invocations toutes bêtes? C'est pas dire Marie ou...
Ça peut être des invocations qui... Je crois qu'il faut vraiment être très très libre. Hein. On est dans une question d'amour, on n'est pas une... Donc il faut laisser parler son cœur, hein, être là avec le Seigneur et Marie auprès de lui.
Est-ce que vous inviteriez aussi à méditer particulièrement des passages d'évangile où la Vierge Marie parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez en accompagnement ou dans les écoles d'oraison?
Moi, je conseillerais de manière générale de tout passage d'évangile. Mais effectivement, je pense qu'on peut très bien prendre particulièrement les passages de la Vierge Marie. Mais même un passage où elle n'est pas citée, on peut faire l'exercice de le vivre avec elle, de le lire avec elle.
Alors, c'est-à-dire, prenez un exemple peut-être.
Prenons un exemple.
Je vous prends de court, mais bon...
Je prends le miracle de la multiplication des pains. Je peux très bien, vous voyez, en y pensant, je dis c'est pas si loin du mystère de Cana. Je peux dire que Marie est là qui intercède pour que les hommes aujourd'hui soient nourris de la parole de Dieu, soient nourris même du pain. Et donc je peux considérer Marie comme celle qui intercède, celle qui m'invite à regarder Jésus, qui me rend attentif aux gestes de Jésus, au regard de Jésus, aux paroles de Jésus. Je peux voir Marie qui repasse ce mystère en le méditant dans son cœur. Hein, Marie comme la femme de l'Évangile, la femme qui garde la parole, hein, qui est un peu le tabernacle de la parole. Et à ce moment-là, j'apprends à son école à laisser résonner ces paroles que je viens de lire dans la page d'Évangile du jour, par exemple. Vous voyez, je la prends comme modèle de méditation. J'ai pas forcément besoin de la mettre en scène parce que de toute façon, dans l'oraison carmélitaine, on fait peu de mise en scène, si je puis dire. Hein. C'est plus, vous voyez, une attitude de regard et d'écoute silencieuse. Et la Marie peut être un excellent modèle.
Vous me disiez aussi en préparant l'émission que c'est une grâce en fait à recevoir parce que on peut aussi se dire qu'il peut y avoir une forme de volontarisme, c'est-à-dire tout le temps vouloir vivre en présence de Marie, vivre son oraison en présence de Marie, que ce soit des mots, que ce soit compliqué à
oui. Voilà. Oui. Moi, je crois que j'éviterai dans ce domaine-là un peu, voyez, une forme de psychologisme ou de méthode Coué, enfin, ou d'autosuggestion, de vouloir faire du forcing spirituel, hein, en mettant le Seigneur ou Marie à toutes les sauces. Enfin, vous voyez, c'est plus une attitude de réceptivité, d'ouverture, de disponibilité. Et comme Joseph, je suis invité à prendre Marie chez moi, ou comme le disciple que Jésus aimait au pied de la croix, il prit Marie chez lui. Vous voyez, c'est plus une ouvrir la porte de mon cœur.
Donc c'est une grâce qui est réservée à quelqu'un, ou c'est une grâce que tout le monde peut demander?
C'est une grâce pour tous. Mais après, comme toutes les grâces qui sont pour tous, il y a la patience de Dieu, et puis nos impatiences à nous, et puis parfois nos manques de disponibilité. Je crois que c'est vraiment... il s'agit d'ouvrir la porte. Et voilà, le Seigneur entrera et il nous donnera Marie, ou Marie viendra pour nous donner Jésus. Vous voyez, c'est dans ce va-et-vient de l'amour que nous sommes invités à rentrer.
Et à quel moment commencerait l'excès ou les choses pas justes?
Si c'est donné, il n'y a pas d'excès. C'est donné quand c'est mon petit cerveau qui travaille, enfin, un peu ce que le pape dans la dernière exhortation apostolique appelle le néopélagianisme. C'est si nous cherchons à fabriquer des choses par nous-mêmes, à maîtriser, si nous on est dans une attitude contemplative, d'accueil, je crois qu'il n'y a pas de risque d'excès.
Vous me disiez quand même qu'il y avait comme des familles d'âmes. Est-ce que vous pouvez préciser déjà ce que veut dire ce terme? Et puis, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que vous avez...
C'est un mystère. C'est un mystère peut-être que je peux observer dans mes rencontres, dans l'accompagnement, qu'il y a des âmes qui spontanément seraient mariales, je dirais. D'autres qui seraient peut-être plus réservées, mais ça ne veut pas dire que Marie ne compte pas dans leur vie. Mais elle, vous voyez, il y a des sensibilités spirituelles. Hein, je crois que l'oraison, elle doit être un lieu de grande liberté. Hein, il ne s'agit pas d'entrer dans un carcan, dans des méthodes. Et je crois qu'il faut même être très pragmatique. Il faut prendre le chemin qui me convient. Et si j'ai une intimité mariale forte, une présence à Marie forte, eh bien je vais vivre l'oraison avec Marie. Si c'est plus discret, plus sec, eh bien je vais pas me désoler. Je me nourris de la manne que le Seigneur me donne aujourd'hui. Et je crois que c'est très important de pas plaquer une espèce de modèle un peu forcé. Je serais un peu mal à l'aise avec ça.
Est-ce qu'il peut y avoir des saisons aussi
tout à fait.
Dans cette dévotion?
En fait, c'est un peu ça.
À une période de sa vie, elle entrait très facilement dedans, et puis
oui.
Une autre.
Et puis je dirais,
tout à fait autre chose.
Oui. Et puis je dirais que ça ne vaut pas que pour Marie, ça vaut pour tous les saints. On a à certains moments de nos vies des saints qui viennent nous parler, nous rejoindre, qui sont des inspirateurs, des modèles, et on va les prier, et je crois que c'est très très marquant. Ça, il faut être là aussi, il faut garder la porte ouverte.
Donc on peut lâcher la main de sa mère sans culpabilité, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Parce que de toute manière, elle est là.
Merci beaucoup, frère Philippe Réguisson. On va faire une deuxième pause, et puis après on va vous retrouver pour parler de la consécration mariale. Ça ne touche peut-être pas directement la vie d'oraison, quoique ça peut être une manière aussi de s'ordonner en vue de l'oraison, si je puis dire, entre autres avec la tradition du scapulaire qui est propre à, enfin qui est née au sein de votre famille spirituelle, si j'ai bien compris. Et puis dire quelques mots aussi de la consécration au cœur immaculé, consécration à Marie, qui est une longue tradition dans l'Église. Comment vivre cela et qu'est-ce que cela peut changer?
Oh.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'école de la prière, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, grande série annuelle d'émissions Vivante Église en partenariat avec les Carmes de Toulouse, grande introduction à cette prière silencieuse et personnelle qui est l'oraison, avec aujourd'hui comme sous-titre de cette émission la Vierge Marie au cœur de l'oraison avec le frère Philippe de Jésus-Marie, frère Carme justement à Toulouse. Peut-être après cette grande série d'introduction à la prière d'oraison, est-ce qu'il y a entre guillemets le niveau 2 ou quel est le service après-vente chez les Carmes? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de donner après? Mettez-nous en bouche peut-être pour l'année prochaine. C'est...
Après, je crois que c'est la vie. C'est la vie quotidienne avec le Seigneur. Enfin,
je croyais qu'il y avait une école d'oraison pour les confirmer.
C'est... Alors les progressants, en fait, si vous voulez, l'école d'oraison pour ce qu'on appelle pour les progressants dans notre jargon, c'est un approfondissement dans le sens d'aider les personnes à continuer. Hein, parce que c'est tellement un itinéraire singulier, personnel, hein, que c'est pas des animateurs ou des carmes qui diront bah maintenant vous devez vivre ça. Après c'est chacun qui fait la route avec le Seigneur, et le but c'est d'encourager à continuer.
Alors je crois pas qu'on ait eu d'émission sur ce thème, donc je vais quand même vous poser la question. Quid de l'accompagnement spirituel? Parce qu'il me semble qu'on en a pas, enfin on en a parlé mais un peu en pointillé. Quand on se lance dans la vie d'oraison, donc on fait une école d'oraison et puis après une école de confirmant peut-être, ou de deuxième, de troisième, etc. Est-ce que toute vie d'oraison nécessite un moment, un accompagnement pour arriver à lire ce qu'on vit? Je sais que vous êtes déjà débordé, donc vous allez sonner les cloches par votre prière, mais...
Faut que je réponde objectivement. Alors je dirais oui et non, pour être un peu normand. C'est sûr que une vie d'oraison qui s'approfondit, normalement, provoque une transformation de la personne dans sa relation à Dieu, qui peut nécessiter à certaines étapes particulière une aide, un accompagnement. Je dirais qu'après, faut pas en faire non plus une obligation, hein, mais c'est sûr que je pense que l'accompagnement spirituel effectivement est plus nécessaire, est davantage nécessaire pour une personne qui fait oraison, parce que elle essaye davantage de se mettre à l'écoute, à la suite du Seigneur, et donc sa disponibilité, ben il faut peut-être quelqu'un à côté qui va l'aider à l'ordonner, à discerner.
Parce qu'on imagine qu'il se passe des choses du coup aussi, non? C'est
Il y a une forme
de transformation intérieure, oui, qui ne doit pas toujours être facile à vivre. Ou...
Alors, ça se passe de manière d'abord très très mystérieuse, hein, parce que bon, c'est pas le temps d'oraison lui-même, les 20 minutes ou la demi-heure qu'on va y passer, pour être extrêmement sec et obscur. En revanche, ce qu'on va découvrir, je ne veux pas anticiper sur les prochaines émissions, hein, les fruits de l'oraison, mais il va peut-être y avoir effectivement des modifications dans la relation à Dieu, dans une plus grande intimité. Moi, j'ai été frappé récemment dans une école d'oraison, les personnes qui disaient, ben voilà, moi, maintenant j'ai une plus grande intimité avec le Seigneur. Et donc, cette intimité, elle va peut-être faire que je vais me poser des questions. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce qu'il faut que je m'engage à quelque chose? C'est là où, effectivement, un accompagnement. Alors, peut-être un accompagnement ponctuel. Vous voyez, c'est pas forcément un accompagnement au long cours. Ça peut être un accompagnement de rencontrer un prêtre ou même une personne qui prie déjà, un ami qui a une certaine expérience, qui peut me donner des petits conseils pour continuer la route.
Dans cette dernière partie d'émission, à propos donc de la place de la Vierge dans la prière d'oraison, on s'est dit qu'on allait parler du scapulaire. Je crois qu'on s'était dit qu'on en parlait la fois dernière et puis que c'était passé à la trappe. Comment vous présenteriez le scapulaire? Qu'est-ce qu'un scapulaire? Et alors, comment cet objet, non pas volant, non identifié, est apparu dans la vie de l'Église?
Voilà, il est apparu dans la vie de l'Église au XIIIe siècle, hein, d'après la tradition du Carmel, à travers une apparition, hein, un carme qui s'appelait Saint Simon Stock, qui était général de l'ordre, qui est enterré à Bordeaux maintenant.
Apparition reconnue par l'Église?
Oui. Hein. Enfin, alors, l'apparition en elle-même, on a beaucoup très peu d'éléments, hein, historiques, mais en revanche, la dévotion qui en est issue, elle a été tout à fait acquise et admise par l'Église. Et donc, ça consiste aujourd'hui...
Apparition, hein, de qui, pardon?
De la Vierge Marie. Hein, voilà. La Vierge Marie, oui, excusez-moi.
Serait apparue donc...
À Simon Stock, pour lui donner un moment de grande détresse dans l'histoire de cet ordre naissant, hein, qui était une communauté nouvelle à l'époque. Simon Stock a demandé l'aide de la Vierge Marie, qui était la patronne de l'ordre déjà, et Marie lui est apparue disparu en lui donnant le scapulaire de l'ordre, c'est-à-dire une partie de l'habit, comme signe de sa protection. Et les carmes n'ont pas voulu garder...
Partie de l'habit des carmes.
Des carmes, hein, oui, pardon. Et cette partie de l'habit, les carmes ensuite ont voulu partager cette grâce qu'ils avaient reçue. Alors ils ont inventé une version portable et miniature pour les fidèles laïcs. Et ils ont diffusé le scapulaire actuel tel qu'on connaît aujourd'hui, qui est un petit morceau de tissu marron que l'on porte de part et d'autre de l'épaule, d'où le mot scapulaire, comme un signe de... dévotion mariale, de se mettre sous la protection de Marie et de se consacrer à honorer Marie, à l'imiter. Et vous voyez, ce scapulaire, il s'est développé à partir notamment du 14e, 15e, 16e siècle, comme vraiment un des, au même titre que le chapelet, un des outils de dévotion à la Vierge Marie, comme une école de se mettre à l'école de Marie, de recevoir l'habit de Marie pour imiter Marie au quotidien.
Parce que qu'est-ce qui a été dit à ce supérieur de l'ordre des Carmes à l'occasion de cette apparition au propos de votre habit?
À l'origine, la Vierge Marie n'a promis ni plus ni moins que le salut à ceux qui portaient cet habit. Alors, c'est évidemment pas une promesse à prendre dans l'absolu. Le salut, s'ils étaient fidèles, évidemment, à l'habit religieux qu'ils portaient. C'est pas un gris-gris magique, je porterai le scapulaire et je peux faire n'importe quelle bêtise.
Mais l'habit présenté, quel était-il en fait? C'était...
Alors, dans les récits, on parle de l'habit, et dans l'iconographie, on a gardé la partie du scapulaire. Radio Présence n'est pas encore à la télé, mais c'est la partie une des parties de l'habit qui est l'équivalent du tablier, si vous voulez, cette grande bande de tissu que nous portons de part et d'autre des épaules. Et c'est ça qui a été donné à Simon Stock comme signe de la protection de la Vierge Marie, et que nous distribuons aujourd'hui sous version miniature, comme manière de se mettre sous la protection de Marie et de se mettre à son école.
Et alors comment on entre dans cette dévotion? On peut appeler ça une dévotion?
C'est une dévotion, ça fait partie c'est un sacramental.
Il y a un
cérémonial qui on peut demander à n'importe quel prêtre, aujourd'hui, c'est pas réservé au Carmes de le donner. Il y a un cérémonial, donc une petite liturgie, de la parole, liturgie d'intercession, de bénédiction. On le reçoit une fois dans la vie. Et à partir de là, on fait partie de la grande famille spirituelle du Carmel et on se met, on est mis sous la protection de Marie et on s'engage en fait tout simplement à avoir une prière mariale quotidienne comme réponse à cette protection. Et je crois que c'est un peu, on pourrait dire que c'est quelque part peut-être la panoplie pour faire oraison, de se mettre de se laisser revêtir par Marie, comme Marie, c'est un geste maternel de revêtir son enfant. Pour recevoir sa couleur, recevoir son habillement intérieur, comme ça évoque aussi la robe du baptême dans la tradition. Déposer les vêtements de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau, c'est cela aussi que signifie le rituel du scapulaire.
Est-ce que vous auriez, je vous avais pas prévenu, mais un témoignage personnel à ce sujet? Est-ce que le seul fait de, alors l'habit en l'occurrence, les Carmes le portent, mais de porter un scapulaire, c'est quoi? C'est un signe physique qui aide à entrer dans une réalité spirituelle?
C'est vraiment de l'ordre du sacramental, c'est-à-dire que c'est un signe qui désigne une réalité spirituelle, une grâce que l'on demande et que l'on reçoit. Moi, je suis frappé. Hier même, je l'ai donné à des personnes, une famille entière. Et c'est toujours un geste important. Ça paraît tout simple et banal, mais je crois que c'est un geste à travers sa simplicité, sa pauvreté de moyens. Il dit une relation entre un chrétien et la mère de Jésus qui va les conduire à une plus grande proximité du Christ, du Seigneur. Et moi, je suis toujours frappé, c'est jamais, jamais une célébration anodine. C'est tout simple. Et les personnes, on pourrait craindre à un moment, pendant certaines années, les années 70-80, on a un petit peu mis ça de côté. Et le pape Saint-Jean-Paul II nous a vraiment invités au Carmel à reprendre cette dévotion, à la diffuser. Et je suis vraiment frappé de voir qu'à chaque fois, c'est une expérience spirituelle qui est vécue à travers cette démarche toute simple, mais qui entre dans ce qu'on essaye de partager aujourd'hui sur l'oraison à l'école de Marie. Vous voyez, entrer dans une plus grande intimité, ça nous colle à la peau. Donc on est dans quelque chose de très concret. Le signe, il nous dit une réalité spirituelle, d'une proximité, d'une intimité.
Alors, quid de la consécration à Marie? On appelle ça aussi la consécration au cœur immaculé. J'ai cru comprendre que ça pouvait être comme... En fait, la conclusion de cette démarche que vous venez de citer, mais d'autres dans l'Église font une autre expérience, parfois choisissent de se consacrer à la Vierge Marie, alors qu'ils sont, ils sont mariés, ils peuvent être voilà, de simples laïcs. Quelle est un peu la tradition de l'Église sur ce sujet?
Alors, il faut d'abord bien préciser qu'en fait, on se consacre fondamentalement à Dieu et à Jésus. Et même la fameuse, la plus connue et la plus importante de ces formes de consécration, qui est celle de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, hein, il s'agit en fait de se donner tout à Marie pour être par elle, en elle, consacré pleinement à la sagesse éternelle, à Jésus. Et c'est bien voir que Marie ne nous garde pas pour elle. Elle nous prend pour nous donner à Jésus. Donc quand je prononce une consécration mariale, quand je reçois le scapulaire, si vous voulez, quels que soient les moyens que je prends, c'est une manière d'entrer dans le mystère de la foi chrétienne, le mystère de l'incarnation, de me laisser Marie me configurer plus pleinement, plus parfaitement à Jésus. Donc c'est vraiment une consécration en fait à Jésus par Marie, si on prenait le terme au niveau vraiment de sa plus grande justesse. Et c'est en cela que cette... qu'on arrive au bout, ce qu'on cherche dans l'oraison, hein, c'est être vraiment configuré à Jésus, être de plus en plus du Christ, de plus en plus chrétien, hein, et Marie est celle qui va nous être le chemin, le moyen peut-être privilégié pour beaucoup d'entre nous d'entrer dans cette intimité, cette proximité.
Est-ce que vous pouvez nous lire cet acte de consécration? Je sais que c'est ce passage que l'on cite n'est souvent, n'en est que le début. Il paraît qu'il est en deux parties, ou en tout cas il en est la fin, et il y a une première partie qui est moins bien connue, mais en tout cas c'est celle qu'on connaît le mieux, qui commence par « Je vous choisis aujourd'hui ».
Il faut que je trouve le texte.
Alors je vais vous aider. « Je vous choisis, je ne vais peut-être pas le lire en entier, je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste.
Pour ma mère et maîtresse, je vous livre et consacre en qualité d'esclave. » Alors c'est un vocabulaire de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort du XVIIe, on pourra dire de serviteur peut-être aujourd'hui. « Mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. » Vous voyez, on prend, si vous voulez, on renonce quelque part à la maîtrise de sa vie spirituelle, hein, en la remettant dans les mains de Marie, pour qu'elle nous accommode le plus possible, nous proportionne, nous dispose à nous mettre dans la dépendance du Christ. Un très bel exemple de ça, c'est la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au moment où elle était sur son lit d'infirmerie, qu'elle allait mourir, ses sœurs disent « Mais demandez au Seigneur une belle mort ». Elle dit « Je ne veux pas le demander au Seigneur, je ne veux pas le déranger ». Alors elle dit ça, je peux le demander à Marie, à la Vierge Marie, et elle s'arrangera, elle verra s'il faut transmettre la demande ou pas. Si vous voulez, elle avait comme renoncé, vous voyez, un certain nombre de maîtrise de sa vie spirituelle, de ses désirs. Elle remet ça à Marie en grande confiance. C'est un geste très, vous voyez, très enfantin, qui se confie à sa mère en disant, voilà, eh bien Marie va arranger ma demande pour faire qu'elle soit agréable à Dieu. Et je crois que c'est une manière, vous voyez, finalement c'est un signe d'humilité, de dire c'est pas moi qui vais décider, hein, le tempo de ma vie spirituelle, ce que je dois faire, ce qu'il faut faire. Je vais me mettre à l'école de quelqu'un d'autre, hein, la mère de la grâce divine, comme on l'appelle au Carmel, pour qu'elle me rende davantage souple, hein, sous la main de Dieu, davantage disponible à l'action de l'Esprit-Saint.
Est-ce qu'il y a des critères dans cet abandon qui font que c'est un abandon juste, j'ai envie de dire, parce que...
C'est un abandon. Alors vous voyez, c'est un abandon.
C'est une forme de lâcher-prise spirituel, c'est ça?
C'est un lâcher-prise spirituel. D'abord, c'est un lâcher-prise je ne me lâche pas dans l'inconnu, je me mets dans les mains d'une mère. Donc il y a un acte de foi derrière. Donc derrière, il y a toute la foi chrétienne, hein, le mystère de la Vierge Marie, le mystère de l'Incarnation. Et puis c'est un lâcher-prise spirituel qui ne m'empêche pas de vivre ma vie de tous les jours et de prendre mes responsabilités, de m'engager, etc. Je ne vais pas rester au lit le matin en disant maintenant Marie dispose de moi et non, je vais me lever quand même. Hein, et c'est plus, vous voyez, dans l'intention de mon cœur, dans l'orientation de mon âme, que je vais me mettre dans cette attitude de dépendance filiale, de confiance. Hein, c'est une école de confiance et donc d'humilité.
Me vient deux dernières questions peut-être pour finir. Dans les documents que vous m'avez fait suivre pour préparation de l'émission, il y a cette phrase « aux heures aussi où nous ne savons plus prier, nous pouvons nous cacher dans sa prière ». Donc
c'est,
dans la prière de
c'est un peu dans le même ordre, vous voyez, le même ordre d'idée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est peut-être aussi parfois, quand on ne peut pas maîtriser son oraison, qu'on ne la tient plus à cause de difficultés personnelles dans tout genre, eh bien on la cache dans celle de Marie, on se blottit un peu dans les bras de notre Mère du Ciel, et puis c'est sa prière à elle qui va monter. Je reviens à Thérèse de l'Enfant Jésus, je suis désolé parce que c'est un très bel exemple. Elle-même, ses actions de grâce, quand elle avait communié, elle disait qu'elle laissait Marie faire l'action de grâce en elle. Parce qu'elle savait bien qu'elle-même, elle s'était pas capable de faire une belle action de grâce, de remercier le Seigneur comme il fallait. Et donc, elle se remettait en Marie et elle donnait à Marie de faire l'action de grâce en elle. Et je crois que c'est un peu ça. Parfois, on ne sait pas prier, on ne sait pas quoi demander, on ne sait plus vers où regarder. Eh bien, on fait cet acte de confiance, de dire, ben voilà, Marie, je me remets en tes bras, dans ton cœur, enfin, on prend l'image que l'on préfère, et on se laisse porter par elle, parce qu'on est sûr qu'elle va nous conduire à bon port.
Pour finir, dernière question, il est dit que le cœur marial, enfin, ça, c'est pareil, c'est dans ce que vous m'aviez fait suivre, il y a cette phrase que la présence de Marie au cœur même de l'oraison, c'est le cœur marial de l'Église. Alors, ce que j'en ai compris, ce qui était décrit dans les textes, c'est que, en fait, quelque part, si on enlève tout, ou au cœur du cœur, on va dire, vous parliez toujours tout à l'heure, au début de l'émission, du Carmel, comme un peu le signe de contradiction, un signe de contradiction apparent, qui est celui un peu de la vie chrétienne, c'est-à-dire où à l'image de la Vierge, de ce qu'on est dit dans l'Évangile, c'est apparemment absente et en fait réellement présente. C'est aussi le chemin de l'oraison, c'est ce que vous me disiez, hein, que notre présence devienne de plus en plus réelle. Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur du cœur de l'Église serait un cœur marial?
Ben c'est l'humanité qui dit oui, qui se laisse aimer, qui se laisse sauver, qui se laisse diviniser par Dieu. Hein. Je crois que c'est Marie, c'est celle qui a dit « Fiat, hein, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et c'est elle qui nous apprend à dire oui, et c'est elle qui est au cœur de l'Église, hein, comme eh bien ce lieu de virginité, ce lieu de silence, qui va laisser Dieu prendre chair en nous, qui va laisser Dieu venir dans notre temps, dans notre monde, dans notre humanité. Et donc je crois que c'est de rappeler que notre foi, elle est d'abord accueil d'une grâce, elle est consentement à cette œuvre de Dieu, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui nous sauve, hein, comme le rappelle très bien le pape dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté. Et donc le cœur marial de l'Église, c'est cette part de l'humanité, hein, qui se laisse sauver, qui se laisse aimer.
Merci beaucoup, frère Philippe Raguis, d'être... Philippe Raguis, oui, c'est votre autre nom, mais vous étiez présenté aujourd'hui comme le frère Philippe de Jésus-Marie. Merci beaucoup d'être venu pour cette émission sur l'école de la prière. Rendez-vous est donné donc le premier lundi du mois de juin pour la dernière émission de cette grande série annuelle sur les fruits de l'oraison. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.